Un magazine américain, Parade, rapporte la petite histoire suivante. C'est l'histoire d'un homme, Eugène Land, autodidacte devenu millionnaire, qui a changé la vie de presque toute une classe de sixième dans le quartier Est d'Harlem à New York. Ayant accepté de faire une intervention dans cette école, Eugène Land s'est demandé ce qu'il pourrait dire de constructif à ses enfants qui, selon les statistiques du moment, allaient tous, à quelques exceptions près, finir en échec scolaire. Il s'est aussi demandé comment il allait s'y prendre pour arriver à accrocher leur attention et gagner leur intérêt. Après plusieurs brouillons qui ont fini à la poubelle, Eugène Land a pris la décision de leur parler avec son cœur. Restez à l'école, leur dit-il. C'est pas tout ce qu'il a dit, c'est la suite qui est importante. Restez à l'école et j'aiderai chacun de vous à payer ses études universitaires. À ce moment-là, la vie de ces écoliers a basculé, a changé. Pour beaucoup d'entre eux, ils avaient de l'espoir pour la première fois de leur vie. Un de ses enfants, bien des années plus tard, a dit « J'avais enfin quelque chose à espérer, quelque chose qui m'attendait. C'était un sentiment formidable. » Et les chiffres donnés par cet article disent que presque à peu près 90% de cette classe a poursuivi avec des études universitaires après avoir brillamment réussi leurs années de collège et de lycée. Qu'est-ce qui a fait la différence pour ces jeunes? Ce qui a fait la différence pour ces jeunes, c'est d'avoir de l'espoir, de l'espérance, un horizon vers lequel avancer. Avoir de l'espérance, une perspective d'avenir, change beaucoup de choses dans l'avenir, mais aussi déjà maintenant, dans le présent. Ça me rappelle quelque chose qu'on vient d'entendre en lien avec ce film « Demain ». Ces personnes qui n'ont pas attendu la fin du monde pour planter un arbre. Et j'aimerais ce matin, à partir d'un verset, parler, alors ça, je parlerai d'autre chose aussi, mais parler en particulier de l'espérance. L'espérance, vous le savez, qui occupe une place importante dans la Bible et dans la vie chrétienne en général. Ce verset se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, c'est le verset 13. 1 Pierre 1, verset 13. Aussi mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. L'apôtre vient de décrire dans les versets qui précèdent le salut de Dieu. Le salut dans sa dimension future, mais aussi le salut dans sa dimension présente. Et il ajoute un salut qui a été préparé par Dieu. Et maintenant, après avoir parlé du salut, l'apôtre exhorte ses lecteurs à vivre à la hauteur de ce salut. Et il commence à le faire à partir de notre verset, le verset 13, et cette section va aller jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Vivre à la hauteur du salut, et il va le faire au travers de 6 impératifs dans le texte. 6 impératifs qui, d'une certaine manière, résume le programme de la vie chrétienne. Je vous les donne sans expliciter. Premier impératif, espérez au verset 13. Et puis dans les versets 14 à 16, soyez saints ou devenez saints. Versets 17 à 21, vivez en révérant Dieu. Versets 22 à 25, aimez-vous les uns les autres. Chapitre 2, versets 1 à 3, croissez spirituellement. Et puis versets 4 à 10, formez un temple pour Dieu. Le premier de ces impératifs, et c'est le seul que nous allons considérer ce matin, est donc espérer. Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Le plan de ce que je vous propose ce matin est très simple. Je parlerai dans un premier temps d'espérance, dans un deuxième temps de grâce, et dans un troisième temps, d'espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Premièrement, donc, l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? Le petit Robert, vers lequel je me suis tourné tout d'abord, dit que c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Voilà la définition du dictionnaire. Est-ce là la définition de l'espérance chrétienne ? De l'espérance qui est attachée à la foi chrétienne ? Est-ce que l'espérance chrétienne n'est finalement qu'une question de probabilité ? Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. J'aimerais suggérer ici qu'il y a une différence fondamentale que nous donne le regard de la foi entre espérer et espérer en Dieu. Espérer est une chose aléatoire. Personne ne peut garantir que ce qu'il espère se réalisera. J'espère qu'il fera beau cet après-midi. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchons en repartant sur Lyon cet après-midi. J'espère que le vent va bientôt s'arrêter. Je peux espérer autant que je veux, je ne maîtrise rien de ce que j'espère. Espérer est une chose aléatoire et qui peut entraîner, qui entraîne souvent bien des déceptions, bien des frustrations, bien des espoirs envolés. Mais il en est tout autrement de l'espérance en Dieu, pour le croyant bien sûr. Espérer en Dieu n'a rien d'aléatoire. Au contraire, espérer en Dieu est empreint de certitude et d'assurance. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est que Dieu lui-même est la garantie de ce qu'il promet et de ce qu'il offre à notre espérance. Si nous n'avons pas les moyens de réaliser, d'assurer la réalisation de ce que nous espérons, Dieu, lui, a toujours les moyens de réaliser ce qu'il promet et qui est l'objet de notre espérance. C'est pourquoi l'espérance en Dieu, la véritable espérance en Dieu, c'est-à-dire celle qui est fondée sur les promesses de Dieu, n'est jamais déçue. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'espérer tout et n'importe quoi. Je viens de le dire, la véritable espérance chrétienne est celle qui est fondée sur les promesses de Dieu et sur les promesses seules. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous pouvons y mettre tout notre espoir, toute notre espérance, parce que Dieu est fidèle, parce qu'il est fidèle à ses engagements, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Il est le Dieu vrai, le Dieu fiable, le Dieu immuable, le Dieu intègre, juste et droit, qui tient toujours ses promesses, toujours sa parole. Il nous arrive d'être infidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Il nous arrive de nous fatiguer, mais Dieu est toujours fort. Il nous arrive d'abandonner, mais Dieu est toujours persévérant. Il nous arrive de fluctuer, mais Dieu est toujours constant. Il nous arrive de vaciller, mais Dieu tient toujours ferme. C'est pourquoi nous pouvons espérer en Dieu, et notre espérance n'est pas vaine. C'est en réalité, dit Pierre au début de son épître, une espérance vivante. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. Une espérance vivante, parce que notre espérance, c'est finalement une personne. C'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est lui que nous aimons, c'est lui que nous attendons, c'est lui que nous espérons. Quelques mots maintenant sur la grâce. Qu'est-ce que la grâce en général et la grâce de Dieu en particulier ? La grâce en général, c'est une faveur gratuite et imméritée. C'est le don de quelque chose que je ne mérite pas. C'est là le sens le plus courant de ce mot et c'est le sens qui rejoint le sens biblique. En effet, la grâce de Dieu, telle que la Bible en parle, est aussi une faveur imméritée et gratuite que Dieu fait à l'homme pécheur. Quelqu'un a écrit un jour, quand une personne travaille 8 heures par jour et qu'elle reçoit une rémunération pour son travail, ça s'appelle un salaire. Quand une personne fait une compétition et qu'elle gagne, elle reçoit un trophée. Quand une personne gagne un concours ou reçoit la reconnaissance pour un service rendu, c'est une récompense ou un prix qu'elle reçoit. Mais quand une personne n'est pas capable de gagner un salaire, pas capable de gagner un trophée, pas capable de mériter un prix et reçoit néanmoins quelque chose, ça s'appelle la grâce. La faveur gratuite et imméritée pour nous de Dieu. Une faveur gratuite parce qu'il n'y a rien à payer, rien à faire pour acquérir le salut que Dieu m'offre, si ce n'est de croire en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour mes péchés. Le salut de Dieu est gratuit, et il se reçoit gratuitement. Une faveur gratuite, mais aussi une faveur imméritée. Il y a des dons qui sont plus ou moins mérités. Les offrir est, par exemple, une façon de dire merci pour quelque chose, pour un service rendu. Il n'en est pas ainsi du salut. Écoutez ces quelques versets très connus de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. « Quant à vous, dit Paul, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, de compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est clair à la lecture de ces versets qu'il n'y avait rien en nous du point de vue de Dieu. Rien qui puisse expliquer l'œuvre du salut. Rien qui ait poussé Dieu à nous sauver. Au contraire, tout nous opposait à lui. Nous étions morts du fait de nos fautes, du fait de nos péchés. Nous étions au nombre des rebelles à Dieu et nous nous conduisions selon les désirs de notre chair, de notre nature humaine. C'est un tableau plutôt sombre qui est brossé ici. Non, vraiment rien en nous n'explique et ne justifie le salut que Dieu nous offre. Une faveur imméritée. Une faveur gratuite et imméritée, et il faut ajouter du seul fait de la bonté de Dieu. Versets 4 et 5, « Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Nous ne l'étions pas. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il nous aurait changés pour que nous soyons aimables. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont faites. Il nous a aimés tels que nous étions. Alors même que nous n'étions pas aimables, à cause de son grand amour, dit le texte, à cause de ses riches compassions. Nous n'étions pas aimables, dit le texte. Pire encore, dira Paul ailleurs, nous étions ses ennemis. C'est ce qu'il écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés au point de faire de nous ses enfants, au point de nous réconcilier avec lui au moyen de la mort de son Fils et au travers de sa résurrection. C'est donc l'amour de Dieu, sa bonté, sans autre raison, sans quoi que ce soit en nous, qui explique et qui justifie le salut, la grâce merveilleuse de Dieu offerte aux hommes par le Christ. Totalement gratuite, totalement imméritée, et pourtant offerte à quiconque croit. Cette grâce, nous l'avons évoquée en passant, et nous le savons, est rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est en vertu de ses mérites. Et c'est la raison pour laquelle, régulièrement dans le Nouveau Testament, il est question de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ou de la grâce qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, au début de son évangile, dit que la grâce est venue en la personne de Jésus. Et dans notre texte, il est question de la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Il est temps de nouer la gerbe. Nous avons parlé d'espérance, nous avons parlé de grâce et nous revenons à notre texte où il est question de mettre notre espérance dans la grâce. L'espérance dans la grâce. Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Littéralement, le texte dit « espérer totalement ». Et le verbe, enfin l'adverbe utilisé « totalement » peut aussi se traduire « parfaitement ». C'est « espérer totalement » ou « espérer parfaitement ». C'est sans nuance, comme souvent dans la Bible. Il n'y a pas d'alternative. C'est soit totalement, parfaitement, soit pas du tout. Mettez toute votre espérance, dit le texte. Pas seulement une partie, pas même une grande partie, mais toute votre espérance. Pourquoi cette précision ? Que faut-il comprendre ici ? Certainement pas que nous n'avons pas le droit d'avoir d'autres aspirations que le retour du Seigneur. Ce n'est bien évidemment pas de cela. Nous avons le droit d'avoir des aspirations, des désirs, des rêves. Il faut comprendre ici que notre seule espérance, notre seul espoir de salut est dans la grâce de Dieu. La grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Ce verset, avec beaucoup d'autres dans la Bible, écarte entièrement la possibilité de notre contribution à notre salut. Notre seul espoir, c'est le message de la Bible, réside dans la grâce de Dieu. Et nous devons totalement y mettre notre espérance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien, rien que je puisse faire pour me sauver moi-même, rien que je puisse faire pour me sauver tout seul. Il n'y a rien que je puisse faire valoir pour mon salut, aucune œuvre bonne, aucune œuvre aussi pleine de compassion soit-elle, aucun effort, aucun sacrifice aussi coûteux soit-il. Aucune obéissance, aussi conséquente soit-elle, aucune victoire, aucune réussite, aucune performance, aussi exceptionnelle soit-elle, aucune influence, aucune richesse, aussi grande soit-elle, aucune racine, aucun ancêtre, aussi illustre soit-il. La Bible va même jusqu'à dire que notre propre justice n'est rien de plus qu'un vêtement souillé aux yeux de Dieu. À la suite du passage d'Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul écrit ces versets, alors qui pour le coup, eux, sont très connus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Par la grâce, cela ne vient pas de nous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vraiment, il n'y a rien, rien à faire, rien que je puisse faire pour le salut, rien que je puisse faire valoir. Rien si ce n'est accepté par la foi. Cette faveur gratuite et imméritée que Dieu me donne en Jésus-Christ. Et ce salut gratuit et immérité a été voulu ainsi par Dieu, dit Paul dans notre texte, afin que personne ne se glorifie. Combien Dieu est juste et sage. Imaginez un instant. S'il fallait faire quelque chose pour mériter Dieu, pour accéder au salut, si quelque part une partie, même une petite partie, était dans nos mains, si c'était le cas, il y aurait ceux qui y arrivent et il y aurait ceux qui n'y arrivent pas. Imaginez un instant la vie d'Église que ça donnerait. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, a mis tout le monde sur un même pied d'égalité. Les riches et les pauvres, les grands et les petits, les intelligents et les simples, afin que personne ne se glorifie. Le salut est gratuit et se reçoit sans compensation aucune. Et c'est dans ce salut, dans cette grâce merveilleuse, que nous sommes appelés à mettre toute notre espérance, parce qu'elle seule peut nous sauver. Comme ce fut le cas pour ces élèves de sixième à qui le millionnaire autodidacte avait donné de l'espoir. L'espérance dans la grâce de Dieu, ce n'est pas qu'une question d'avenir, c'est pas seulement pour l'éternité, pour demain, c'est déjà pour maintenant. C'est une réalité qui change notre présent, notre aujourd'hui. Parce que nous avons une espérance, l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du retour de Jésus-Christ, l'espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Nous allons et nous devons vivre notre vie d'homme ou de femme autrement. Ça a une incidence sur notre vie aujourd'hui. Avoir de l'espérance, avoir une perspective d'avenir change notre présent. Change quoi ? Change en particulier, et là il faudrait partir sur un nouveau message, mais je n'ouvre qu'une piste. Change en particulier notre perspective des choses. Notre perspective sur notre propre vie, notre perspective sur le monde dans lequel nous vivons. Un monde où, d'un côté, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs temporaires, et un monde où nous sommes aussi appelés à vivre pleinement, comme sel de la terre et lumière du monde, à vivre pleinement comme les témoins de la grâce que nous avons accueilli dans notre vie. Une perspective différente, un avenir, un horizon, une espérance. Que Dieu nous aide à trouver cet équilibre difficile, conjuguer l'espérance des choses à venir et puis la réalité de cette vie que nous devons vivre pleinement et où Dieu nous appelle à être ses témoins. Qu'il nous accorde de mettre totalement notre espérance dans sa grâce et d'être ainsi aujourd'hui pleinement ici-bas les témoins de son amour, les témoins de la grâce qui a été apportée par la révélation de Jésus-Christ. Mettez toute votre espérance aujourd'hui et demain dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à quelques instants.